pour vous de retrouver Anne Verdaguet pour votre journal d'Haïti et des Amériques. Bonjour Anne.
Bonjour Andréane, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, on va vous parler de cette affaire qui met Washington en ébullition. Un échange téléphonique qui aurait eu lieu l'été dernier entre Donald Trump et son homologue ukrainien pour, disent les journaux, enquêter sur le fils de son rival démocrate Joe Biden. Romain Le Maresquier nous en dira plus. L'ouverture de la conférence sur l'urgence climatique à l'ONU. Et puis on vous parlera aussi de ces Américains qui s'exilent au Canada. On commence par la revue de presse des Amériques. Bonjour Romain Le Maresquier.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une ce lundi, les États-Unis. La semaine dernière, la presse américaine faisait état d'un signalement déposé par un lanceur d'alerte, membre des renseignements américains, visant le président américain pour des pressions qu'il aurait exercées sur son homologue ukrainien lors d'une conversation téléphonique. Le but, le pousser à enquêter sur la famille du démocrate Joe Biden, une information désormais confirmée par Donald Trump romain.
Oui, depuis jeudi dernier, tout le monde s'interrogeait sur le nom du dirigeant qui avait été contacté par Donald Trump et sur le contenu de cette discussion. Désormais, comme le confirme le Washington Post et comme l'a confirmé Donald Trump lui-même, on sait que le président contacté était Volodymyr Zelensky, le président récemment élu en Ukraine. Quant au contenu de la discussion, elle concernait Joe Biden et plus précisément son plus jeune fils Hunter.
Alors, pour quelle raison Donald Trump souhaitait parler du fils de Joe Biden, Romain ?
Comme le détaille le New York Times, Hunter Biden a travaillé pour un groupe gazier ukrainien à partir de 2014, lorsque son père était vice-président de Barack Obama. Et selon le quotidien, Donald Trump souhaitait que le président ukrainien relance des enquêtes pour démontrer des faits de corruption auxquels pourrait être lié Joe Biden. Désormais, comme le confirme le quotidien, les démocrates, Joe Biden en tête, réclament une enquête et que soit publiée l'intégralité de la conversation. Pour Nancy Pelosi, chef de la majorité démocrate à la Chambre des représentants, cette énième affaire démontre l'anarchie qui règne au sein de la Maison-Blanche. Quant à la défense de Donald Trump, comme en témoigne Politico, elle semble pour le moins hasardeuse et aller à contresens avec ce qu'attend le parti républicain. Donald Trump qui estime que cette conversation doit rester confidentielle tout en suggérant qu'elle soit publiée.
On reste encore aux États-Unis, Romain, avec ce lundi à New York, à la veille de l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations Unies, un sommet sur le climat.
Oui, une soixantaine de dirigeants mondiaux participent aujourd'hui à un sommet climat à l'ONU censé relancer les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donald Trump n'assistera pas à ce sommet, détaille le quotidien colombien El Tiempo, ni Jair Bolsonaro, le président brésilien, alors que presque tous les dirigeants sud-américains y participeront. Un sommet qui va se dérouler sous la pression de la rue, détaille le journal, faisant écho aux très nombreuses et massives manifestations qui se sont déroulées un peu partout dans le monde vendredi dernier. Un sommet au cours duquel Greta Thunberg, la jeune militante suédoise contre le réchauffement climatique, prononcera un discours très attendu selon El Tiempo.
Voilà Romain, et c'est donc le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui sera à la manœuvre lors de ce climat. Antonio Guterres, très engagé sur les questions climatiques. À New York, on retrouve notre envoyé spécial Muriel Paradon.
La lutte contre le réchauffement climatique est une des priorités d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies qui parle souvent de léguer un monde meilleur à ses petits-enfants. Et il attend de la centaine de dirigeants réunis ce lundi à New York pour ce sommet climat autre chose que de beaux discours. Il veut des propositions concrètes, des engagements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le prolongement de l'accord de Paris en 2015. Car il y a urgence, les projections des scientifiques sont de plus en plus alarmistes. Il faut que chaque pays relève ses ambitions pour pouvoir maintenir un réchauffement climatique en deçà de 2 degrés. Si rien n'est fait, en 2100, les températures pourraient même augmenter de 7 degrés, selon une étude récente. La France devrait faire des annonces en matière de financement pour le climat. Elle présidera aussi une réunion sur la reforestation de l'Amazonie. D'autres pays comme la Chine, plus grand pollueur de la planète, sont aussi très attendus. En revanche, les présidents des États-Unis et du Brésil, qui rechignent à s'engager sur ces questions environnementales, ont tout simplement décidé de boycotter ce sommet sur le climat à l'ONU. Muriel Paradon, New York, RFI.
Romain, pourquoi organiser ce sommet en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies ?
Eh bien, c'est une initiative du secrétaire général de l'organisation, Antonio Guterres, comme on vient de l'entendre. Comme l'explique le quotidien canadien Le Devoir, face à l'incapacité des décideurs politiques de s'attaquer efficacement à la crise climatique, Antonio Guterres a convoqué ce sommet afin de tenter de donner une impulsion pour une réduction nettement plus ambitieuse des émissions de gaz à effet de serre. Mais rien n'est acquis en raison des retards accumulés formulé de l'ampleur des défis à venir, précise le quotidien. Un sommet qui s'ouvre au lendemain de la publication d'une information qui démontre encore plus l'urgence climatique. Comme le rapporte Le Devoir, les 5 dernières années, c'est-à-dire entre 2015 et 2019, devraient constituer la période la plus chaude jamais enregistrée selon un rapport divulgué hier par l'ONU.
Enfin, en Haïti, le départ du président Jovenel Moïse pour New York a été reprogrammé à mardi.
Oui, Jovenel Moïse devait initialement quitter Port-au-Prince ce dimanche, comme l'annonçait le Nouvelliste la semaine dernière, mais finalement, il ne quittera la capitale que ce mardi. Le quotidien explique ce changement de programme. Le président Moïse ne peut pas se présenter à l'ONU sans un gouvernement installé en Haïti, selon une source du Nouvelliste qui explique que la convocation ce lundi dès 8h du matin des sénateurs pour une séance de ratification de la dernière chance pour Fritz William Michel s'inscrit dans ce cadre. Il y aura donc peut-être de manière officielle un nouveau premier ministre en Haïti ce lundi. Selon le Nouvelliste, Jovenel Moïse n'a pas le choix. Il lui faut un premier ministre pour être crédible à l'étranger et il est prêt à tous les efforts pour faire passer le nouveau premier ministre avant son départ.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques. Et on passe à présent aux Emmys Awards. Hier soir à Los Angeles, la série Game of Thrones rafle le prix de la meilleure série dramatique pour son ultime saison. Mais c'est une autre série qui a créé la surprise. La comédie britannique Fleabag a été sacrée meilleure série comique. Loïc Piala à Los Angeles.
And the Emmy goes to Game of Thrones.
Game of Thrones, sacrée meilleure série dramatique pour la 4e fois en 8 saisons. Pas vraiment une surprise, tant le show phénomène partait favori. Les 24 000 votants de la Television Academy n'ont à l'évidence pas prêté attention à la colère de certains fans mécontents qui exigeaient que cette 8e et ultime saison soit réécrite et retournée. Sur scène, D.B. Weiss, l'un des deux créateurs de la série, a salué ceux qui l'ont accompagné pendant 10 ans.
Thank you to the hardest working.
Merci aux équipes de tournage les plus travailleuses de tout le show business. Celles qui ont tourné 70 nuits d'affilée dans les rues froides et pluvieuses de Belfast. Celles qui ont tourné partout dans le monde. Vous êtes tous incroyables. Et c'est incroyable que vous soyez encore tous en vie.
Et les Emmy Awards ont récompensé un autre phénomène. Son nom, Phoebe Waller-Bridge, cette Britannique de 34 ans, créatrice de la série Fleabag sur une célibataire londonienne, est montée 3 fois sur scène chercher un Emmy pour la meilleure écriture, meilleure actrice et meilleure série comique.
Quand j'ai commencé à écrire la série, j'étais cynique et déprimée par l'état du monde. Écrire ce personnage a été cathartique pour moi.
Son triomphe est une surprise et une bonne nouvelle pour Amazon, qui diffuse la série aux États-Unis sur sa plateforme Prime Video, même si Phoebe Waller-Bridge assure qu'il n'y aura pas de 3e saison. Loïc Piala, Los Angeles, RFI.
On va parler à présent de ces Américains qui s'exilent vers le Canada et ils sont de plus en plus nombreux. Les statistiques le montrent, même si ce mouvement demeure encore modeste en termes global. Des citoyens bien établis dans leur pays avec une bonne situation financière qui pensent donc à le quitter. Ce n'est pas très commun. Ces départs prennent leur origine, bien sûr, dans la situation politique et sociale des États-Unis et interviennent surtout depuis l'élection de Donald Trump. À Montréal, le reportage de Pascal Guéricola.
Quand il a été élu la première fois, j'ai dit un peu à la blague, je déménage au Canada, mais pour moi, c'est comme presque faisable parce que j'ai un appartement.
À 43 ans, Adèle Saint-Pierre songe maintenant sérieusement à quitter la ville de New York pour le Québec. Déjà, cette Américaine d'origine québécoise a passé une entrevue cet été pour offrir ses services de professeur. Même si elle vit dans un État très pro-démocrate, le climat politique de son pays lui pèse de plus en plus.
Sur le plan fédéral, il y a des changements qui vont venir. On commence à menacer les droits des femmes pour l'avortement. Le discours sur les immigrants, le discours sur le climat aussi. C'est les changements climatiques, on a à la tête de notre pays quelqu'un qui ne croit pas au changement climatique. C'est assez grave, selon moi. C'est un climat politique qui ne me plaît vraiment pas en ce moment, qui me fait un peu peur. Donc, je n'ai pas envie d'être là quand ça va vraiment péter.
Fils d'une Française née durant la Shoah, David Ben-Gurion n'a pas hésité, lui, à déménager sa famille et son entreprise au nord de la frontière, juste après l'élection de Donald Trump. Il habite désormais à Montréal, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.
Il ne faut pas penser qu'on va tourner ce petit chapitre avec Trump si facilement. Ce n'est pas une question de Trump, c'est une question d'un système américain où les votes ne comptent pas. Hillary a gagné avec 3 millions de votes de plus, mais elle a perdu l'élection. Je ne tolère pas ça, c'est pas une démocratie, c'est quelque chose d'autre. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est pas pour moi ça, c'est pas pour moi. Et il n'y a aucune intention de changer ce système. Alors c'est très évident que Trump peut perdre avec 5 millions de votes en 2020, et toujours redevenir président des États-Unis. Je n'accepte pas ça. C'est pas une question de vivre à New York où on peut bien bouffer, parler avec des gens qui sont sympas. Ça, c'est pas la démocratie. Ça, c'est pas le futur. C'est un recul de 100 ans. Tout est basé maintenant sur en fait une guerre entre les races. C'est absolument fou ce qui se passe là-bas. C'est complètement pas l'esprit américain. Et maintenant, ça infecte l'immigration, bien sûr, les politiques économiques, l'éducation. Les autres présidents républicains jouaient près de cette petite piscine de racisme, mais Trump a plongé là-dedans. Il a plongé complètement.
Fondateur d'une entreprise de jeux vidéo, le PDG de Ready Games dirige une équipe de 25 employés à travers le monde. La moitié se trouve au Canada. Le gouvernement de ce pays lui a d'ailleurs offert une aide généreuse pour créer de nouveaux postes. Le secteur des technologies de l'information canadien intéresse de plus en plus d'Américains, comme le constate Stéphane Duval. Il est avocat en droit de l'immigration.
Il y a de plus en plus d'entreprises américaines ou encore des filiales d'entreprises internationales basées aux États-Unis qui ouvrent des succursales canadiennes ou encore, s'ils avaient déjà des bureaux au Canada, font des transferts d'employés vers le Canada. Une grande majorité d'entreprises situées dans le domaine des technologies d'information ont opéré un transfert important, soit de leurs opérations ou de leurs employés des États-Unis vers le Canada.
Le climat politique ne constitue pas la seule cause de déménagement des entreprises américaines. Elles apprécient aussi le plus faible coût des salaires pratiqués au Canada. Pascal Guéricola, Québec, RFI.
Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on part en Haïti où la crise politique perdure. L'approvisionnement des stations essence, quant à lui, a progressivement repris. Et en fin de semaine dernière, au plus fort de cette crise, s'est tenu le premier festival international de poésie, les Transpoétiques. À seulement 24 ans, c'est le jeune poète haïtien Jean d'Amérique qui a eu l'idée de monter cet événement, non sans difficulté, vu le contexte. Amélie Baron, notre correspondante à Port-au-Prince, l'a rencontré.
Il y a un manque, il n'y a pas de festival de poésie qui fait écho à cette belle effervescence des poètes en Haïti. Du coup, je me suis dit, il faut mettre en place cet événement. Pour commencer, il y a le problème de trouver des financements. On a dû lancer une campagne de financement sur Internet. On est finalement arrivé au jour J et c'est là que, avec la conjoncture actuelle en Haïti, on a dû tout changer au dernier moment. Un peu en transe poétique, vraiment. Ouais.
Donc le contexte et les difficultés, c'est les pénuries de carburant et les manifestations de l'opposition contre le pouvoir en place. Mais les artistes, les poètes rebondissent, on va dire, en Haïti rapidement. On crée des œuvres sur ces fameux bidons jaunes qui sont devenus les galons jaunes, le symbole de cette crise. Donc la poésie existe, mais au quotidien en Haïti.
Je dis toujours que c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut encore plus de poésie. Je crois qu'on ne pouvait pas faire comme si on ne voit pas ce qui se passe dans le pays. Il y a des difficultés, il y a cette rareté de gaz qui nous touche aussi. Du coup, on a utilisé ce fameux symbole, le galon jaune, sans faire de discours directement sur la rareté d'essence, parce que la poésie, je crois que ça fonctionne autrement. On n'est pas dans une réalité au premier degré, ça va au-delà. Et du coup, on a juste utilisé l'image, le symbole du galon. On a mis des poèmes dessus et ça parle à tout le monde, en fait.
Comment on peut expliquer cette effervescence dont tu parlais des poètes en Haïti? Parce qu'il y a une très forte littérature, on le sait, mais beaucoup de poésie, ce qui n'est plus le cas dans de nombreux pays occidentaux.
Parce que ici, il y a vraiment un intérêt général pour la poésie. J'aime bien prendre l'exemple de ce fameux poème populaire que tout le monde connaît, mais peut-être qu'on l'ignore. « Trois feuilles, trois racines, j'étais blié, ramassé, songé. » En français, on pourrait dire « Trois feuilles, trois racines, jeter, c'est oublier, ramasser, c'est se souvenir. » C'est un poème qui charrie l'imaginaire haïtien et tous les Haïtiens, ils connaissent ça. Et moi-même, mon enfance a été traversée par des chants où il y a de la poésie, des légendes, des contes. Je crois qu'il y a cette sève à la base. Et puis, ce rapport avec l'oralité aussi, ça se fait encore dans les bars à Port-au-Prince. Tout à coup, t'entends un récital de poésie qui monte. Tout naturellement, on discute de littérature. C'est comme si on fait des combats de poèmes. Je dois connaître tel poème, tu dois connaître un poème. pour pouvoir toujours répondre à l'autre. Et puis le nombre de jeunes qui écrivent ici, je crois que être poète, c'est le rêve le plus courant chez les jeunes en Haïti. Il y a même, je crois, plus d'aspirants poètes que d'ONG en Haïti. Ouais. Et parfois, ils peuvent même pas subvenir à leurs besoins quotidiens. Normalement, ça veut dire manger et boire. Mais ils vont mettre de l'argent de côté pour imprimer leur propre recueil. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de maisons d'édition. Donc ça, c'est une force incroyable. Et en plus, c'est pas n'importe quoi qui s'écrit. Il y a une poésie qui est forte, qui est chargé d'un imaginaire flamboyant. Très souvent, c'est distingué à l'étranger, en France. Et encore, il y en a plein ici qui sont pas très connus. Et à travers ce festival, j'essaie aussi de les mettre en avant.
Le poète haïtien Jean d'Amérique, créateur du premier festival international de poésie en Haïti, les trans poétiques, au micro d'Amélie Baron. L'actualité des Outre-mer à présent, comme tous les jours avec le journal La Première Caraïbe. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui en Martinique, les forces de l'ordre recherchent des immigrés clandestins disparus dans la nature après le naufrage de leur embarcation.
Oui, une embarcation, une yole retrouvée vide samedi au Prêcheur sur la côte nord-ouest de la Martinique. Il s'agirait d'immigrés venus d'Haïti, ce qui ne surprend pas vraiment ces habitants de la commune. Ils se disent habitués. Ils sont interrogés, ces préchotins, par Cécile Mar.
C'est assez fréquent, les Haïtiens débarquent, ils ont des voitures qui viennent les chercher. Donc, ils sont organisés, ils arrivent, on les dépose sur la plage. On vient les chercher et ils redescendent sur Fort-de-France.
C'est pas une seule fois, c'est l'habitude. Tous les jours, il y a des Haïtiens ici. Tous les jours, il y a des gens qui viennent le chercher et tout. Ils ont des voitures. Au Prêcheur, c'est tous les jours. Hein.
Ils vont où ensuite, les clandestins? Ils vont où?
À Saint-Pierre, à Fort-de-France. Vous voyez les yoles qui arrivent, les gens, ils descendent. Et après, ils ont leurs complices qui viennent le chercher. Ils sont cachés dans le bois et c'est comme ça se passe. Hein.
Ça arrive souvent?
À partir du moment qu'il pleut, ils sont là. Ah ouais, ils savent qu'il n'y a pas de gendarmes, il n'y a rien, il y a de la pluie, hein, ben, ils profitent pour entrer.
Témoignage recueilli donc dans la commune martiniquaise du Prêcheur. Les maraîchers, producteurs de vivres et autres éleveurs des Antilles qui travaillent sur des zones contaminées par le pesticide chlordécone subissent une insupportable injustice. C'est en tout cas l'opinion exprimée en Guadeloupe par le président de la commission d'enquête parlementaire, le député martiniquais Serge Letchimy. Ces personnes qui nourrissent les deux îles seraient selon lui très peu aidées pour adapter leurs exploitations, notamment par les fonds européens, à la différence du secteur de la banane qui est pourtant directement à l'origine de cette pollution par les pesticides. Serge Letchimy est au micro de Josiane Champion.
C'est une injustice très douloureuse parce qu'il faut être très clair. Au moment où on a accepté de mettre en place ce pesticide-là pour traiter les charançons sur les bananiers, il y a une collusion très importante entre les autorités politiques et les lobbies économiques et ceux qui distribuent pour pouvoir maintenir l'activité de la banane et en assurer la productivité. Aujourd'hui, la banane a pris une nouvelle orientation en termes de banane durable, mais bénéficie de moyens mérités certainement. Et par contre, ce sont ceux-là qui ont demandé et mis les produits. Mais ceux qui sont victimes n'ayant jamais utilisé ces produits-là, je parle de l'agriculture, de diversification, n'ont pas le même niveau d'aide. Donc pour moi, il y a une vraie injustice. Ceux qui sont victimes, ce sont ceux justement qui ne sont pas correctement aidés. Donc il faut inverser les choses, donner de vrais moyens.
On donne trop à la banane dans les pays?
Si on donne trop, la seule chose, il faut partager les moyens financiers. Démontrer qu'on a pris conscience de cette injustice historique et qu'on puisse aider les petits. Où est-ce qu'on prend l'argent? Il faut bien répondre quelque part. Il faut régler ce problème d'injustice qui crée une situation anxiogène et de colère que je peux comprendre.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain et bon après-midi à vous, Benoît Ferrand. On se retrouve donc demain pour le journal d'Haïti et des Amériques. 14h10, heure de Paris. Midi 10, temps universel. En attendant, restez avec nous sur la Radio du Monde.